pour vous préparer vos questions. Et oui. Puis, on va laisser Jean-Bert Cagny intervenir. Et après, donc, on... Voilà.
Merci. Ma modeste contribution aura un caractère éminemment juridique. J'espère qu'elle pourra enrichir et nourrir votre réflexion. Mais la thématique, a priori, est un peu éloignée de celle qui est le thème de votre soirée, Valérie, sur la victime. Je voudrais seulement rappeler à tous le cadre juridique dans lequel nous posons notre réflexion. Tout d'abord, en ce qui concerne la législation antiterroriste, je comptais pas moins de 15 lois jusqu'à aujourd'hui, depuis la loi du 9 septembre 1986 qui avait été prise parce que pendant la décennie 70 et le début de la décennie 80, la France avait été confrontée à des actes terroristes qui avaient conduit le législateur donc à intervenir pour créer des infractions spécifiques et des règles de procédure spécifiques. 15 lois, disais-je. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a eu deux en 86, deux en 92, une en 95, une en 96, encore une en 96, puis 97, 2001, 2004, 2006, 2011, 2012. On s'attardera sur la dernière et puis sur le projet de loi sur le renseignement. La dernière loi relative à la lutte contre le terrorisme est celle qui a été adoptée le 13 novembre 2014. Elle avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Afin d'éviter que certains ressortissants ne se radicalisent à l'étranger et risquent de présenter une menace à leur retour en France, ce texte met en place une interdiction administrative de sortie du territoire. C'est une interdiction de 6 mois maximum, qui est renouvelable aussi longtemps que les conditions seront réunies, nous dit le texte. Et la décision peut être prise par le ministre de l'Intérieur et peut faire l'objet de recours, bien sûr, devant la justice. Cette loi permet l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée. De même, la loi permet aussi au ministre de l'Intérieur de prononcer une interdiction administrative d'entrée sur le territoire français à l'encontre de tout ressortissant étranger qui ne réside pas habituellement en France. Et ça s'applique également aux ressortissants de l'Union européenne, lorsque la présence en France de cet étranger constituerait une menace grave pour l'ordre public. La loi, donc cette dernière loi du 13 novembre 2014, pénalise l'entreprise individuelle à caractère collectif, alors que jusque-là, il ne s'agissait que d'entreprises collectives à caractère terroriste. Il s'agit donc de prendre en compte, avec cette loi, la possibilité pour une personne seule de préparer un acte terroriste. Ce même texte renforce la répression de l'apologie du terrorisme et de la provocation à des actes de terrorisme. Et il permet, par exemple, le blocage administratif des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui y provoquent. Pour s'adapter aux nouvelles techniques de stockage des données, les enquêteurs peuvent, en vertu de cette nouvelle loi, peuvent perquisitionner le cloud, le nuage informatique. Ils ont le droit d'intercepter les discussions sur des logiciels d'appel téléphonique sur Internet. Alors, l'état actuel de la législation. J'ai établi une distinction entre les dispositions pénales et les dispositions de procédure pénale. En droit pénal, la force du dispositif judiciaire français en matière de terrorisme, ou plutôt de lutte contre le terrorisme, repose sur un droit spécialisé. Il s'agit d'infractions spécifiques, de règles procédurales exorbitantes du droit commun, et sur des magistrats et des services d'enquête spécialisés. c'est l'article 421-1 du Code pénal qui définit la notion d'acte de terrorisme par la réunion de plusieurs éléments. Premièrement, l'existence d'un crime ou d'un délit de droit commun incriminé par le Code pénal. Les délits sont énumérés par une liste limitative qui a été établie par le législateur. Deuxièmement, il faut une relation de ces crimes ou de ces délits de droit commun, qui sont limitativement énumérés, une relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur, ce qui caractérise la circonstance de terrorisme. Ces actes de terrorisme sont punis de peines qui sont aggravées, on verra tout à l'heure. Par ailleurs, sont également incriminées des infractions terroristes par nature ou qui peuvent revêtir ce caractère. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais citer par exemple l'acte de terrorisme écologique, dont certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler. C'est l'article 421-2 qui nous indique que constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. L'association de malfaiteurs, délictuelle ou criminelle en relation avec une entreprise terroriste, a été prévue par cette dernière loi. La direction et l'organisation d'une association de malfaiteurs, délictuelle ou criminelle, en vue de préparer des actes terroristes, est également un nouveau délit, une nouvelle infraction créée par cette loi. L'acte de financement d'une entreprise terroriste devient une nouvelle infraction. Les actes de recrutement, même non suivi d'effet, en vue de participer à une association de malfaiteurs à visée terroriste ou en vue de commettre des faits de nature terroriste, constituent une nouvelle infraction. Enfin, la non-justification de ressources de toute personne étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à des actes de terrorisme constitue une nouvelle infraction. Et enfin, le recel d'auteur d'un acte de terrorisme constitue une nouvelle infraction sui generis. La clé de voûte des infractions en matière de terrorisme est, bien sûr, l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Cet article énonce que constitue un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. Un petit commentaire là-dessus. Pour dire que pour les juristes, on distingue la tentative de la commission des faits. Et qu'en poussant un peu plus loin l'analyse, ce qui caractérise une tentative, ce n'est pas les actes préparatoires, mais c'est le commencement d'exécution. Or, en matière de terrorisme, les actes préparatoires constituent une infraction, et pas seulement le commencement d'exécution. Je referme la parenthèse. Cette loi incrimine donc des actes préparatoires aux actes de terrorisme. Et la peine prévue, excusez du peu, est de 10 ans d'emprisonnement et 225 000 euros pour toute participation à une association de malfaiteurs terroristes. Cette peine est portée à 20 ans lorsque le groupement formé avait pour objet la préparation d'actes de terrorisme considérés comme graves car mettant en danger l'intégrité physique de personnes. Cette infraction est régulièrement retenue et admise par la jurisprudence pour poursuivre les membres de réseaux terroristes qui ont été interpellés avant de mettre en œuvre leur projet. Enfin, la loi pénale est applicable aux actes terroristes commis hors du territoire de la République par un Français ou un étranger résident habituellement en France, sans même qu'il n'y ait besoin d'une dénonciation officielle du pays dans lequel se sont déroulés les faits. ce qui est une dérogation particulière encore à nos règles de procédure. On rajoutera que cette dernière loi de 2014 a également prévu des infractions nouvelles en matière de droit de la presse. Ces infractions, ces incriminations sont donc prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La provocation directe aux actes de terrorisme, qu'elle soit ou non suivie des faits, est donc punissable lorsque l'un des moyens prévus par la loi de 1881 aura été utilisé, c'est-à-dire des discours, des cris, des menaces proférées dans des lieux ou dans des réunions publiques, ou des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publiques, soit des placards ou des affiches exposées au regard du public, soit tout moyen de communication au public par voie électronique. Il convient de relever, parmi les moyens cités pour définir la provocation, que cette dernière mention, tout moyen de communication au public par voie électronique, a été rajouté pour, dans la loi relative à la confiance dans l'économie numérique. Elle renvoie donc à l'utilisation d'Internet. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a une distinction à établir, parce que toutes les règles de procédure de la loi sur la presse ne sont pas applicables à ce nouveau délit qui est pourtant inclus dans la loi sur la presse. L'article 24 de cette loi incrimine l'apologie des actes de terrorisme. La peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement. Si la personne mise en examen est domiciliée en France, pour ces faits d'apologie d'actes de terrorisme, elle peut être placée en détention provisoire. C'est une exception aux règles de procédure relatives à la loi sur la presse. On en a un exemple dans une affaire jugée en septembre 2013. Un jeune converti à l'islam, qui était modérateur d'un site djihadiste, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis du sursis, avec maintien en détention pour provocation et apologie de terrorisme. Qui est cependant reconnu comme étant un délit de presse. L'action publique et l'action civile se prescrivent après 1 an en matière d'apologie, d'actes de terrorisme, délit de presse, et pourtant, la règle de prescription de l'action publique en matière de presse, c'est 3 mois. Là, on a porté de 3 mois à 1 an. Revenons aux règles de procédure pénale générale applicables spécialement à la matière du terrorisme et non plus du délit de presse d'apologie. Alors, il y a une garde à vue, un régime de garde à vue qui est spécifique. En matière de terrorisme, la personne gardée à vue a évidemment droit à la présence d'un avocat, à faire aviser sa famille ou son employeur, à être assisté d'un avocat, je l'ai dit, à consulter un médecin, mais pas tout à fait pour l'avocat, pas tout à fait comme en droit commun. L'accès à l'avocat peut en effet être reporté pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, ou pour prévenir une atteinte aux personnes, alors qu'en droit commun, la présence de l'avocat est immédiate et que toute audition de l'intéressé qui a demandé la présence d'un avocat et qui se ferait sans la présence de l'avocat est entachée de nullité absolue. Là, le délai peut être repoussé. La présence de l'avocat peut être repoussée pendant 72 heures. Dans des cas particuliers, hors du terrorisme, ce délai peut parfois exceptionnellement être repoussé de 12 heures ou 24 heures. En matière de terrorisme, il peut être repoussé de 72 heures. 3 jours sans avocat en matière de terrorisme, donc. S'agissant de la durée elle-même de la garde à vue, le droit commun, c'est 24 plus 24, 48 heures. En matière de stupéfiants, il y a quelques exceptions, bien sûr. En matière de terrorisme, ça peut être porté à 96 heures, c'est-à-dire 4 jours, y compris pour les mineurs de plus de 16 ans, qui sont impliqués comme auteurs ou comme complices. Exceptionnellement, cette garde à vue peut être portée à 144 heures, c'est-à-dire 6 jours, s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. Dans les règles de procédure applicables, il y a des techniques d'enquête spéciales. Il est possible de mettre en œuvre des techniques spéciales d'enquête, notamment les opérations d'infiltration, c'est-à-dire pénétrer un réseau par un agent. On peut procéder à des saisies ou des perquisitions en dehors des heures légales. Normalement, la règle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de perquisition dans un domicile entre 21h et 6h du matin. Là, non, en dehors des heures légales. Possibilité d'une enquête, en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire, de procéder à des écoutes téléphoniques, alors que, en droit commun, ça n'est possible que sur une commission rogatoire, donc lorsqu'un juge d'instruction en a décidé. Là, non. Enquête de flagrance ou préliminaire, ce n'est plus le juge du siège qui dirige l'enquête, c'est un magistrat du parquet, c'est le procureur de la République. Les écoutes téléphoniques peuvent durer un mois, renouvelables un mois. Le renouvellement intervenant après autorisation du juge des libertés et de la détention. On peut procéder à la sonorisation ou à la fixation d'images de tout lieu ou de tout véhicule public ou privé. On peut procéder à la captation des données informatiques. On peut participer, un agent peut participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques. Il peut entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. La loi permet d'extraire, d'acquérir ou de conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions terroristes. Parmi les éléments dérogatoires en matière de procédure, il y a une compétence judiciaire spécifique. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui est compétent pour juger, instruire et juger ces affaires. Et lorsqu'il s'agit d'un crime, et qu'il est donc jugé par une cour d'assises, celle-ci est spécialement composée de magistrats professionnels, exclusivement de magistrats professionnels. Il n'y a pas de juré. Ça vaut pour les accusés majeurs ainsi que pour les mineurs de plus de 16 ans. Alors, il y a des dispositions de police administrative, comme l'expulsion des étrangers, le refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport, ou son retrait. Je passe sur le reste, qui sont des dispositions de gel des fonds, des instruments financiers ou ressources économiques, d'opposition à sortie du territoire, etc. Venons-en, après avoir examiné l'état de cette législation, qui est quand même complète, dérogatoire au droit commun, et qui permet de disposer d'un arsenal conséquent pour lutter contre le terrorisme, à nous poser la question de ce projet de l'objectif de ce projet de loi sur le renseignement qui est actuellement débattu devant le Parlement. Cette loi sur le renseignement avait été annoncée en juillet 2014 par l'Élysée. Sa rédaction a été suivie par le député PS, président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, un proche du Premier ministre. L'examen de ce projet de loi a été accéléré avec les attentats djihadistes de janvier dernier, évidemment, qui ont fait, on s'en souvient tous, 17 morts et une vingtaine de blessés. Matignon nous dit que ce n'est pas un Patriot Act. Au fait, pour l'anecdote, Patriot, c'est en fait un acronyme. En réalité, c'est donc USA Patriot Act, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Reread to Intercept and Obstruct Terrorism Act, ce qui veut dire loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme. C'était une loi antiterroriste qui a été votée par le Congrès des États-Unis et signée par George W. Bush le 26 octobre 2001. Cette loi, dans la pratique, autorisait les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et par les entreprises sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. Elle permettait aussi, sous certaines conditions, de détenir pour une durée quasiment illimitée toute personne sans jugement. Guantanamo. Matignon nous dit que le projet de loi sur le renseignement, ce n'est pas du tout un USA Patriot Act. Mais beaucoup de personnes n'en sont pas tout à fait convaincus. En réalité, on découvre que l'objectif de la loi, certes, c'est de protéger les citoyens contre le terrorisme et donc de donner à nos services de renseignement, entre autres, les moyens de lutter plus efficacement, mais c'est surtout de légaliser les pratiques de ces services de renseignement et la mise en œuvre de techniques qu'ils utilisaient déjà jusqu'à présent en dehors du cadre légal. Il s'agit donc pour cette loi d'offrir un cadre légal cohérent et complet. En pratique, avec cette loi, les services de renseignement seront donc dotés d'armes techniques dont la mise en œuvre ne leur posera pas de problème juridique. Ils seront protégés puisque dans les clous. Par exemple, il s'agit de la sonorisation de véhicules, de l'installation de logiciels espions dans les ordinateurs, de recours à un appareil de captation du numéro de la carte SIM d'un téléphone portable, on va le voir. Cette nouvelle législation française, qui en est à l'état de projet, c'est pas encore définitivement adopté. Le vote solennel interviendra pour l'Assemblée nationale le 5 mai prochain, puis ensuite ça passera au Sénat. Il n'y aura pas de navette, puisque c'est la procédure d'urgence qui a été retenue par le gouvernement pour faire adopter cette loi. Cette loi, si elle est adoptée en l'état, consacrera la montée en puissance des services de renseignement en matière de lutte antiterroriste, mais elle consacrera aussi, et je le déplore, la perte d'influence de la police judiciaire et l'affaiblissement du contrôle des magistrats en matière de lutte antiterroriste. Rappelons-nous que les magistrats de l'ordre judiciaire sont les garants des libertés individuelles. Et là, la loi sur le renseignement, ou le projet de loi sur le renseignement, les met complètement à l'écart. Quels services seront concernés ? Alors on nous parle de la communauté de renseignement français. Il s'agit de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, relevant du ministère de l'Intérieur, DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, rattachée à la défense, DPSD, Direction de la protection et de la sécurité de la défense, DRM, Direction du renseignement militaire, DNRED, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, donc ministère de l'économie et du budget, TRACFIN, organisme chargé de détecter les flux financiers suspects, également économie et budget, et depuis le rejet de l'amendement Taubira la semaine dernière, du bureau de renseignement pénitentiaire relevant du ministère de la Justice. Un mot sur ce dernier point. Le projet de loi initialement déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale ne prévoyait pas du tout d'inclure le bureau du renseignement pénitentiaire qui comporte 13 personnes dans la communauté du renseignement qui sera habilitée à utiliser des méthodes et des techniques sophistiquées et intrusives. Mais le texte, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, un projet de loi, lorsqu'il est discuté par l'Assemblée nationale, au moment du débat, n'est plus du tout le même que celui qui a été déposé par le gouvernement. Il est modifié en commission. Il est retravaillé et c'est sur le texte de la commission que doit se prononcer que doivent se prononcer les députés ou les sénateurs et non pas sur le texte initialement élaboré par le gouvernement. Donc en commission, les parlementaires, les députés ont estimé opportun de rajouter le bureau de renseignement de l'administration pénitentiaire pour dire qu'il faisait partie de la communauté de renseignement et qu'il aurait donc les mêmes moyens, qu'il pourrait utiliser les mêmes moyens d'investigation. En amont du processus judiciaire, lorsque Christiane Taubira a découvert cela, elle a aussitôt fait en sorte que le gouvernement puisse déposer un amendement pour faire retirer cette disposition du projet de loi tel qu'il résultait du travail des commissaires. Cet amendement a été soumis au vote et il a été rejeté. Il a été rejeté parce que l'ensemble de l'opposition, UMP, a voté contre l'amendement, mais ça n'aurait pas suffi mathématiquement. Il y a donc une partie des socialistes qui a également voté et qui a uni ses voix à celles de l'opposition pour repousser l'amendement Taubira. Pour une fois, les frondeurs avaient voté dans le sens que réclamait le gouvernement, que réclamait Christiane Taubira, mais ça n'a pas suffi. Et donc, pour l'instant, dans l'état du projet de loi tel qu'arrêté le 16 avril dernier, le bureau de renseignement pénitentiaire est un service de renseignement. Il disposera des mêmes moyens que la DGSE, la DGSI, la DNRED, la DRM, la DPSD. Je reviens à ce projet de loi sur le renseignement. Quelles infractions sont visées ? Le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive, la contre-ingérence, les intérêts majeurs de la politique étrangère et les violences collectives pouvant porter gravement atteinte à la paix publique. Pour n'importe laquelle de ces thématiques-là, on pourra utiliser les moyens que nous allons examiner maintenant. Téléphone. Pour les téléphones, il s'agit de capteurs de proximité que les services vont utiliser, de petites valises de type IMSI Catcher, qui permettent aux agents de récupérer tous les numéros de boîtier et de cartes SIM qui émettent dans un périmètre donné, de 300 mètres à 1 km. Sur le terrain, ce dispositif permet de repérer le portable d'une cible qui se déplace. Ça permettra de siphonner les données, même si les services de renseignement disent que ce n'est pas l'objectif, d'écouter les conversations, même s'ils disent que ce n'est pas leur objectif. Je reste sceptique. Les écoutes administratives restent évidemment possibles. On nous dit qu'il faudra un avis préalable d'une commission administrative indépendante. Le projet de loi étend cette possibilité d'écoute non seulement aux cibles, mais également à leur entourage. Alors, les ordinateurs. Les services vont pouvoir introduire des logiciels espions dans les ordinateurs de leurs cibles. Une technique qui permet d'analyser le contenu d'un disque dur, de repérer un texte à partir de la frappe sur le clavier et même de capter à distance les informations apparaissant à l'écran. Géolocalisation. Les services de renseignement pourront, dont le bureau pénitentiaire, donc, pourront légalement poser des balises dans les véhicules permettant de les géolocaliser. Et on est hors des procédures judiciaires, là, et hors du contrôle du juge. Les micros et les caméras, les services pourront installer des caméras et des micros au domicile des suspects. Alors parlons de contrôle. Quel contrôle sera institué ? la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement va être créée, CNCTR. Elle remplacera la Commission nationale des interceptions de sécurité, qui avait été mise en place en 1991. Et elle aura la responsabilité d'éviter d'éventuelles dérives. Ses membres seront 9, 4 parlementaires, 2 conseillers d'État et 2 membres de la Cour de cassation, ainsi qu'un expert en communication, en télécommunication. Cette commission devra rendre un avis préalable à l'emploi d'une des techniques que j'indiquais tout à l'heure, à l'emploi d'une technique intrusive. Mais l'avis de cette commission est purement consultatif. La décision est prise par le Premier ministre qui peut passer outre. Elle ne lie en rien le Premier ministre. Alors, la Commission pourra aussi exiger l'arrêt d'une surveillance déjà engagée et pourra s'assurer de la destruction des données pour autant qu'on lui donne, que les services de renseignement lui donnent la matière de ce qu'ils ont eux-mêmes saisi. Actuellement, la durée moyenne de conservation d'une écoute est de 10 jours. Avec le projet de loi sur le renseignement, elle est étendue à 30 jours. Et on nous dit que la Commission pourra en outre saisir le Conseil d'État en cas de violation manifeste des règles. Elle pourra saisir le Conseil d'État si je saisir la... je demande à la Commission si j'ai été placé sous écoute ou pas. Elle est obligée de me répondre, mais sans motiver son avis. Elle me dira oui ou non. Si elle me dit oui, je saisirai le Conseil d'État. Mais là, c'est une procédure un peu particulière qui n'est pas contradictoire. Les services de renseignement, et donc le gouvernement, pourront fournir au juge du Conseil d'État des documents auxquels je n'aurai pas accès. La préservation du secret défense, n'est-ce pas, fera qu'on m'interdira l'accès à ces documents et la décision qui sera rendue me sera quand même opposable. Je ne suis pas sûr, d'une part, que le Conseil constitutionnel, dont le président de la République nous a dit qu'il allait le saisir, c'est une chose assez rare, sans doute la première fois sous la Ve République, et je ne suis pas sûr non plus, encore moins, que la Cour européenne des droits de l'homme, si elle devait être saisie, valide la licéité d'un jugement, ou la conventionnalité plutôt d'un jugement qui ne serait pas contradictoire. Alors, l'autorisation finale de mise en œuvre de telle ou telle technique relèvera de Matignon. Mais en cas de menace imminente, les agents de terrain pourront décider d'initiative de poser une balise, par exemple, ou de procéder à une écoute, sans demander l'avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et sans demander l'autorisation du Premier ministre. Ils pourront le faire d'initiative, s'ils invoquent la menace imminente, l'urgence. Ils devront alors, nous dit le texte du projet de loi, en avertir dans les plus brefs délais et la Commission et Matignon, qui trancheront sur la validité des données qui auront été collectées au cours de la surveillance et qui pourront, le cas échéant, ordonner leur destruction. Donc tout ça, c'est des critères particulièrement flous de mise en œuvre de ces pouvoirs exorbitants, confiés à une commission qui fonctionne selon une logique qui est inversée, pour autoriser les écoutes ou les moyens techniques particuliers, là, un seul membre de la commission suffit à donner son avis favorable. Sauf en cas d'urgence où on s'en passe. Bon. Mais pour recommander de renoncer, pour dire non, avis négatif, il faut la majorité absolue des membres de la commission. C'est ce que prévoit le projet de loi. L'exécutif demeurant en dernier ressort libre d'autoriser ou non la mesure, quel que soit l'avis de la commission. Enfin, si la commission ne dit mot, elle consent. L'atteinte à la liberté devient ainsi la règle et la protection, l'exception. Alors, un mot sur la commission d'enquête Sénat Réseau Djihadiste. Une commission d'enquête avait été mise en place il y a quelques mois et a présenté son rapport la semaine dernière, qui comporte 110 propositions. Dans son constat, la commission parlementaire relève, c'est une commission du Sénat, hein, relève que des hommes et des femmes, dont un grand nombre de mineurs, de familles et 25% de convertis à un islam très radical, sont partis. En Syrie. Parmi eux, 120 sont rentrés en France en 2014. 53 sont incarcérés. 67 sont donc libres sur le territoire français. Le constat. En mars 2015, on compte exactement 1432 Français partis en Syrie ou en Irak, dont 413 effectivement dans les zones de combat. Un chiffre en augmentation. La situation est grave, nous dit le rapport. Il y a beaucoup à faire. Le rapport fait le constat d'un certain retard de la France dans son action. Il a fallu attendre le printemps 2014, nous dit le rapport, pour que soit mis en place un plan anti-djihad, comprenant notamment l'instauration d'un point de contact pour les familles souhaitant signaler la radicalisation d'un proche, alors que l'accélération des départs avait commencé dès 2012. Parmi les propositions, j'ai retenu prévenir la radicalisation. C'est la proposition numéro 1 des sénateurs. Donc mettre en place des actions obligatoires de formation à la détection de la radicalisation à destination des acteurs de terrain, c'est-à-dire des personnels enseignants, des conseillers d'éducation, des personnels de l'aide à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs sportifs, assistants sociaux, personnels pénitentiaires, etc. Le rapport propose de renforcer les moyens du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation pour faire fonctionner ce service 24 heures sur 24. Ce qui veut dire qu'actuellement, il ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Ce service pourrait être aussi chargé d'élaborer des programmes de contre-discours adaptés aux différents profils visés, avec diffusion notamment via les réseaux sociaux. Autre proposition, introduire un programme d'enseignement laïque du fait religieux dans le cadre scolaire. Renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes. Propose de tripler les effectifs du bureau d'enseignement pénitentiaire. Augmenter les moyens humains et matériels du service central du renseignement territorial. Créer des task forces permettant aux services de sécurité de mettre leurs moyens en commun. Ça, le projet de loi sur le renseignement s'en charge. Ouvrir l'accès des fichiers de police et de justice aux services de renseignement qui n'ont pas actuellement accès. Propose de contrer le djihad médiatique en imposant aux acteurs d'Internet de permettre aux internautes de signaler les messages contraires à la loi en un seul clic. Doter le service chargé de la lutte contre la cybercriminalité de 80 personnes supplémentaires. Tarir le financement du terrorisme. Mieux contrôler les frontières de l'Union européenne en instaurant des contrôles systématiques aux frontières de l'espace Schengen. Créer un corps de garde-frontières européen. Adapter la réponse pénale et carcérale en formant les élèves magistrats au phénomène de radicalisation. Renforcer la procédure d'agrément des aumôniers de prison. Isoler les individus radicalisés en prison dans la limite de 10 à 15 personnes, mesure déjà prévue par Christian Taubira. Il y a des choses qui n'ont pas été retenues dans le rapport, alors que certains commissaires avaient insisté, mais au total, le rapport ne les a pas retenus. Des sénateurs UMP ou UDI auraient souhaité rendre obligatoires les sermons en français dans les mosquées. Une telle proposition serait anticonstitutionnelle, selon Jean-Pierre Sueur. Il faudrait aussi, dans ce cas, interdire la messe en latin dans les églises ou l'hébreu dans les synagogues, selon ce même sénateur PS. Un amendement de la présidente de la commission, Nathalie Goulet, sur la clarification des circuits financiers du halal, a aussi été rejeté. Elle disait que, comme ça dégage beaucoup d'argent, il ne serait pas imbécile qu'une petite partie de cet argent soit prélevée pour former les aumôniers musulmans. Autre désaccord, la droite sénatoriale aurait voulu lancer la réflexion sur l'organisation de l'islam en France. On ne peut pas en faire abstraction. On dit que le Conseil français du culte aux musulmans n'est pas tout à fait représentatif. Le groupe communiste aurait aussi souhaité des propositions sur le sujet pour le rapporteur de cette commission. Ce n'est pas le rôle de l'État de se mêler de l'organisation du culte musulman. D'autres sénateurs ont défendu des propositions fortes sur le plan de la prévention et des stigmatisations. Il y a au niveau mondial, disent certains, une humiliation des musulmans, une frustration quand on n'est pas dans l'emploi. Daesh recrute plus que les entreprises françaises. La sénatrice ELV Esther Benbassa pointe les problèmes de discrimination. Elle souhaite l'instauration de statistiques ethniques pour mieux mesurer le problème et y répondre. La sénatrice du Val-de-Marne attendait des réponses pour éviter les contrôles aux faciès. Elle propose aussi une formation des imams avec l'ouverture d'un institut de théologie musulmane. Selon Esther Benbassa, notre société a fabriqué des djihadistes. Il manque dans ce rapport toute la partie prévention. Le juridique ne suffit pas à apporter des solutions à des maux. Et ce n'est pas en mettant en prison les djihadistes qu'on réglera le problème. Un dernier mot, et pardonnez-moi si je suis aussi bavard, mais le sujet est important. Où en est l'état de la réflexion de notre ministre de la Justice? Alors, Christiane Taubira poursuit son cycle de concertation avec des experts pour mieux appréhender le phénomène de radicalisation en détention et pour y apporter des réponses plus adaptées. Elle a organisé le 10 mars 2015, donc le mois dernier, une nouvelle séance de travail avec des spécialistes des programmes d'action menés à l'étranger, un politologue et chercheur, Aziem El-Difraoui, un sociologue franco-iranien, Farhad Khosrokavar, ainsi que le directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, Fahd Khosrokavar, et Rojou Esteban, chef du service de la prospective et de la stratégie au Centre d'intelligence contre le terrorisme et le crime organisé en Espagne, ainsi que Pierre Coneza, vice-président de l'Association française des victimes de terrorisme. Que disent tous ces gens-là et que reste-t-il de cette réunion, cette dernière réunion? La circulation des savoirs est indispensable pour éclairer une réflexion. Le partage des connaissances et des expériences est primordial pour mieux comprendre le phénomène et mettre en œuvre les solutions les plus adaptées. Ainsi, Christiane Taubira a lancé ces dernières semaines une recherche-action dans deux établissements pénitentiaires d'Île-de-France. L'expérimentation est menée en partenariat avec des chercheurs et des associations et va permettre d'améliorer les critères de détection des personnes détenues radicalisées ainsi que d'élaborer des programmes spécifiques de prise en charge. Les experts se sont en effet accordés sur le fait que ce phénomène de radicalisation est en pleine métamorphose. On a mis en lumière trois phénomènes. En prison, les détenus radicalisés sont devenus très discrets. Il y a par ailleurs, parmi ceux qui partent en Syrie, de plus en plus de jeunes issus de la classe moyenne et des filles. Pour résumer, il n'y a plus de profil type. Par ailleurs, la motivation religieuse s'efface de plus en plus. Leur connaissance de la religion est souvent très limitée. Ils sont essentiellement dans une posture politique visant à contester la loi de la République et à la remplacer par la loi divine. C'est ce qu'estimait Pierre Coneza. Ce qu'a confirmé Aziem El-Difraoui en disant que le djihadisme ne passe plus par une connaissance approfondie de l'islam. Il y a des projets pilotes en Espagne et en Allemagne dont on va essayer de s'inspirer. Un mot encore sur le choix des mots. Il faut prendre des précautions au niveau sémantique afin que les termes choisis soient à la fois précis, partagés par tous et opérationnels, a expliqué la ministre, Christiane Taubira. Gilles Kepel avait ensuite souligné la nécessité d'abandonner le terme de terrorisme, mais aussi celui de radicalisation ou de djihadisme, et de construire de nouveaux mots qui reflètent mieux la réalité à partir d'une analyse plus fine du phénomène. Il faut désethniciser le débat, avait pour sa part estimé Pierre Coneza. La dernière réflexion, c'est sur le recrutement d'aumôniers musulmans en prison, qui était un sujet au cœur de la séance de travail. Recrutement, formation, indemnisation des aumôniers musulmans en prison. Pour tous les experts, c'est un sujet primordial qui exige une très grande attention. La réflexion doit donc être menée en profondeur. Et la garde des Sceaux en est pleinement consciente puisqu'elle a doublé le budget de recrutement de ses aumôniers, qui sont indemnisés en fonction des heures passées à la prison. On en a déjà recruté 30, et il y en aura 60 supplémentaires entre 2015 et 2016, a-t-elle précisé. En ce qui concerne leur formation, Gilles Kepel a souhaité qu'ils suivent, en plus de leur cursus en théologie, une formation en sciences humaines, notamment en histoire et en sociologie, afin de renforcer leur compréhension de la société et de ses évolutions. Olivier Roy a proposé quant à lui que les aumôniers musulmans en prison forment les futurs aumôniers, comme cela se fait déjà au sein de l'armée. Je tiens, pour information personnelle, que la volonté d'augmenter le rythme de recrutement des aumôniers musulmans va peser sur le choix de la qualité des intervenants. On m'a cité des exemples dans mon entourage proche d'aumôniers qui sont manifestement pas à la hauteur et sur lesquels on ne miserait pas un copec, même dans la confiance qu'on devrait investir en eux sur leurs convictions laïques ou républicaines. Et pourtant, la volonté de la ministre, c'est de recruter les aumôniers, et on va en recruter. Mais j'ai bien peur que cette première vague de recrutement nécessite une attention très, très particulière. Alors, pour lutter contre la radicalisation en prison, la ministre a souligné qu'elle a obtenu l'augmentation du nombre d'heures d'enseignement en détention. L'objectif est de faire baisser le taux très élevé de personnes analphabètes. D'autres mesures ont été également mises en œuvre. Formation à la laïcité pour les personnels de l'administration pénitentiaire, renforcement du renseignement pénitentiaire. Les djihadistes veulent cliver la société française et la société européenne. Ils souhaitent que les personnes se réfugient dans la haine et dans la xénophobie. Il ne faut pas se laisser piéger par la situation, a conclu l'un des membres de cette dernière réunion, Mohamed Sifaoui. Et je n'ai rien vu sur les psychologues, et je suis là pour répondre à la question qui m'avait été posée. Je vous remercie de votre attention. Pardon d'avoir été si long.